Et je vous invite à entendre un texte de l'Évangile de Jean que vous connaissez bien, et puis trois petits passages de l'Apocalypse de Jean. Tout d'abord, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, les 10 premiers versets, c'est la première partie de la parabole du berger. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui garde la porte lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Les brebis qui lui appartiennent, il les appelle, chacune par son nom, et il les emmène dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, bien plus elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole. Mais ils ne comprirent pas la portée de ce qu'il disait et Jésus reprit. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il ira et il viendra. Et donc, dans l'Apocalypse, au chapitre 3, nous sommes donc au tout début de ce dernier livre de la Bible, chapitre 3, les versets 7 à 9 tout d'abord, puis au chapitre 3, toujours versets 19 à 20, et enfin au chapitre 4, les versets 1 et 2. À l'ange de l'Église qui est à Philadelphie, écrit. Ainsi parle le Saint, le véritable qui tient la clé de David, qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je sais tes œuvres, voici. J'ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Tu n'as que peu de force et pourtant tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Ça, c'était donc un extrait de la lettre à Philadelphie. Voici un extrait de la lettre à Laodicée. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Enfin, au début donc du chapitre 4, c'est le début là, à ce moment-là, de la grande vision de l'Apocalypse, après les lettres aux sept églises. Après cela, je vis, une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais entendue me parler, telle une trompette, dit « Monte ici, je te montrerai ce qui doit arriver ». Et aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Père, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Donc l'Apocalypse commence par ces lettres aux sept églises qui se situent quelque part en Asie mineure, sur les bords de la mer Égée, en face de la Grèce. Cette église, c'est un chiffre symbolique, évidemment, ça signifie très vraisemblablement l'ensemble des églises chrétiennes de l'époque, dont évidemment le noyau central se trouvait en Turquie actuelle. C'est peut-être pour ça que cet Apocalypse est adressé à ces églises. Et vous l'avez entendu, à la fin de ces sept lettres, il y a deux églises où il y a la référence à des portes. La porte, c'est un symbole qui est puissant, c'est un symbole qui est vivant, comme on dit quand on étudie la symbolique, c'est un symbole qui nous parle consciemment ou inconsciemment. La porte inspire bien des artistes, on en connaît pas mal, et je pensais en écrivant cette prédication même à la porte de l'enfer que Rodin a sculpté. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu au musée Rodin. Enfin, c'est assez saisissant, mais multiple interprétation de la porte. Et puis les portes, c'est assez fantastique, toujours intéressant à regarder. Quand on passe devant des grandes institutions un peu anciennes, hein, on a des grands porches extraordinaires avec des sculptures, etc., des cariatides ou des atlantes qui sont là, ou des monstres aussi parfois qui sont sculptés avec des bas-reliefs, une richesse très très grande qui montre la puissance des bâtiments qui sont là, la puissance des institutions que ces bâtiments abritent. Pense aux grandes banques par exemple au 19e siècle ou les grandes compagnies de chemin de fer, etc. Mais bien sûr, il y a une porte qui est particulièrement parlante, si je puis dire, et très symbolique aussi, c'est la porte des églises et des cathédrales. Alors là, on pourrait écrire presque un livre, et je ne vais pas vous faire une chose pareille, parce que vous dormiriez bien avant la fin, mais lorsqu'on entre dans une grande église, une cathédrale, eh bien, on franchit la porte et sur le tympan de la porte, au-dessus, il y a le Christ qui est là, souvent sculpté en bas-relief ou peint, avec le jugement. D'un côté, ceux qui sont sauvés, de l'autre côté, ceux qui sont réprouvés. Et on entre là-dedans comme si on entrait dans un jugement et on entre dans l'église et à travers la nef, le chœur, on monte jusqu'au fond de l'église où est dessiné, peint, en général, le Christ en gloire. Un Christ uranien, céleste, qui est là, qui signifie que le salut est là, le ciel est là, avec le partage eucharistique pour les amis catholiques. Vous direz chez les protestants alors, mais c'est pareil, la porte est aussi importante. Quand on franchit la porte d'un temple, on n'entre pas n'importe où, je veux dire, et en général, dans les temples un peu anciens, les portes sont très signifiantes aussi, très majestueuses, et pareil, on monte, là aussi, une fois qu'on a passé la porte, on monte vers la table de Sainte-Seine, sur laquelle se trouve la Bible ouverte, c'est-à-dire la Bible avec la parole de grâce, qui est le témoignage de l'Écriture, qui est accessible, ce que signifie l'ouverture de la Bible. Si un jour vous allez à un culte et que la Bible est fermée sur la table de Sainte-Seine, il faut aller l'ouvrir tout de suite, parce que ce serait vraiment dommage. Mais bien sûr, la porte... Nous, on l'a en tête comme cela, en géographie, on va dire que le Liban, c'est la porte de l'Asie, par exemple, et ainsi de suite. Il y a des tas d'expressions comme ça dans le langage courant, où on voit que la porte a une importance très grande. Mais les psychologues le savent aussi. C'est-à-dire, tous les psychologues ou psychiatres qui se respectent font très, très souvent dessiner des maisons à leurs patients, et ils analysent tout de suite la porte. Est-elle ouverte, fermée, large, accueillante? Y a-t-il une route? De la couleur, que sais-je encore, il y a mille et une choses à dire sur une porte. Et la manière dont on va dessiner la porte en dit long, très souvent, sur l'auteur du dessin. Nous reviendrons sur cette porte, sur le sens de cette porte, à partir des lettres à Philadelphie et Laodicée. Et bien sûr, je dirai un mot sur la dernière porte, celle qui ouvre au ciel, là, lorsque le voyant de Patmos est enlevé par l'esprit et qu'il va avoir la grande vision qui va se développer devant lui. Le grand dévoilement, c'est-à-dire l'Apocalypse, comme son nom l'indique au point de vue étymologique. Alors c'est vrai que les événements qui sont décrits par l'Apocalypse nous semblent souvent bien mystérieux et nous échappent. Ce sont des successions de catastrophes qui fait dire que très souvent, ce qui est apocalyptique, c'est une catastrophe, un tremblement de terre, c'est l'apocalypse, et que sais-je encore, on entend ça dans le langage de tous les jours, mais c'est une erreur. Apocalypse, c'est simplement le dévoilement, une révélation, ça ne veut pas dire spécialement malheur. Mais il n'empêche que dans l'Apocalypse de Jean, lorsqu'on lit cet apocalypse, on a un théâtre de l'histoire qui se déroule devant nous à l'aide d'allégories, d'images, de quelquefois d'images qui sont plus ou moins codées, qu'il faut arriver à déchiffrer, c'est pas toujours simple. mais c'est ainsi, ça a été écrit pour les gens de l'époque. Les cavaliers, les coupes, les trompettes, etc., tout cela montre que les églises de l'époque, ces fameuses sept églises, étaient en proie à des problèmes très graves. Et c'est pour ça que le voyant Jean, le voyant de Patmos, a écrit cet Apocalypse, pour mettre en garde peut-être. Il y a des grands problèmes en ce début du deuxième siècle. Il y a des persécutions qui commencent à être systématiques avec la dynastie des Flaviens, avec Domitien, et puis ça continuera avec la dynastie des Antonins. Malgré de très grands empereurs, il n'empêche que les persécutions seront là. Il y a des hérésies aussi, ce qu'on appelle des hérésies, dire des déviations qui peuvent être assez embêtantes. C'est le début du montanisme, par exemple, hein, qui disait qu'il y avait un Dieu pour l'Ancien Testament qui est un mauvais Dieu, etc., mais que le vrai Dieu, c'est un Dieu qui se révèle dans le Nouveau Testament, et encore pas dans tous les textes du Nouveau Testament. Donc, évidemment, il y avait des débats qui étaient là, des scissions dans l'Église qui se passaient. Hein, c'est le début de ce qu'on appelle la gnose aussi. Alors, vous me direz, pourquoi je vous parle de tout cela? Mais parce que tout cela, ça dure encore. La gnose, cette idée... une sorte de dévoiement d'un Dieu qui rate le monde d'en bas et auquel il faut échapper d'une manière ou d'une autre, eh bien, ça dure encore. Vous trouvez ça dans le New Age, il y a quelques années, dans le transhumanisme, encore aujourd'hui. Et donc, l'histoire est bien souvent, en fait, une porte sur l'actualité. Vous avez le docétisme aussi qui sévit à ce moment-là. C'est-à-dire que certains voyaient en Jésus-Christ un personnage tellement fabuleux qu'il ne pouvait pas mourir, qu'il n'avait pas pu être crucifié, ce n'était pas possible, et que ce qui s'était passé sur la croix, c'était une apparence de mort, comme l'indique le mot docétisme. Et donc, on ne pensait pas que Jésus-Christ avait pu mourir, être enterré comme quelqu'un et ressusciter après. On avait d'autres solutions, en particulier qu'il était monté au ciel avant la crucifixion, que quelqu'un d'autre avait été crucifié à sa place. Eh bien, ça dure toujours, ça encore, parce que l'islam est comme ça. Et si vous lisez le Coran, je ne sais pas si c'est votre lecture quotidienne, je veux dire, mais si vous lisez le Coran, vous verrez qu'il est dit dans le Coran que Jésus-Christ monte au ciel avant la crucifixion et que c'est quelqu'un d'autre qui est crucifié à sa place. Il y a donc là aussi l'histoire, hein, nous ouvre les portes de l'actualité. Et c'est intéressant de voir ce qui se passait hier se passe encore aujourd'hui. Et les divisions, j'en parle pas. Les divisions, elles sont constantes dans l'histoire de l'Église et dues encore aujourd'hui entre ceux qui pensent avoir la stricte vérité, un petit peu intégristes sur des bords, et puis ceux qui sont un peu libéraux, qui, j'en connais, je ne vais pas les citer, mais je vais dire, qui se disent après tout, la vérité se partage aussi avec d'autres gens qui ne l'expriment pas de la même manière que nous, je veux dire, et qui ne pensent pas comme nous, et qui aiment le débat et qui fait avancer finalement les remises en cause. Mais il n'empêche que le monde décrit par l'Apocalypse, c'est le monde de toujours finalement, c'est le monde du combat cosmique entre le bien et le mal, la bête qui signifie le mal, Néron qui est caché en filigrane là-dedans, la grande prostituée de l'Apocalypse qui signifie que c'est de Rome dont on parle. Tout est là, je veux dire, dans des combats gigantesques, mais à la fin, la bête est vaincue, le mal est vaincu, et tout cela est précipité dans les temps de feu, même la mort est précipitée dans les temps de feu, finalement. Alors, on a l'impression que le théâtre de l'histoire se dégage et apparaît à ce moment-là de Jérusalem céleste, c'est-à-dire le triomphe du bien, le rétablissement de l'Éden. Je crois que ça a été développé dimanche dernier lors du culte, alors qu'un catéchumène avait choisi précisément un texte de l'Apocalypse. Eh bien, moi, je trouve que c'est une espérance formidable. Vraiment génial. L'Apocalypse, c'est vraiment un livre d'espérance qu'il faut lire et relire, dont on doit s'imbiber d'une certaine manière, même si c'est parfois un petit peu touffu et un peu compliqué à suivre, mais peu importe, petit à petit, on entre là-dedans, dans cette espérance qui est là. Parce que toutes les personnes qui sont prises, qui sont aux prises avec le problème du mal, peuvent très bien, dans l'Apocalypse, se reconnaître d'une manière ou d'une autre et se dire qu'effectivement, là, au bout de la route, il y a la Jérusalem céleste, il y a la victoire du bien. Mais comment entrer là-dedans? L'Apocalypse nous dit, bien, il faut franchir la porte pour entrer là-dedans, la porte ouverte. La porte ouverte que nul ne peut fermer, précisément. Eh bien, ça n'est pas rien. À l'époque où les villes étaient fortifiées, il n'y avait pas de place dans les villes. Les maisons étaient entassées les unes les autres à l'intérieur des remparts. Même jusqu'au Moyen-Âge, eh bien, en face de Notre-Dame de Paris, il n'y avait pas de place comme il y a aujourd'hui. Et les grandes réunions, quand c'était nécessaire, se passaient à la porte des villes, dehors, là où il y avait la place, les grands marchés, les grands tribunaux, que sais-je encore, les grandes rencontres se passaient à cet endroit. Ainsi, pas très loin d'ici, au Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance, à la porte Saint-Honoré, qui se trouve place du Palais-Royal, là où passait l'enceinte de Charles V, eh bien, il y avait le marché au port. Pourquoi je vous raconte des histoires de cochons comme ça? Parce qu'il y avait de la place, là, qu'on était en dehors des murs, et que c'était un des premiers lieux de culte protestant à Paris. Voilà. On n'arrivait pas à imaginer faire un culte là où les cochons étaient passés quelques jours avant, voyez-vous dire, et à l'extérieur des murs en plus. Ceci pour vous dire qu'il se passait à la porte des villes des choses importantes. Ainsi, les jugements. Lorsque la personne qui était jugée à la porte des villes comme ça était reconnue coupable, on fermait la porte des villes pour signifier que la personne qui était à l'extérieur, jugée à l'extérieur, ne faisait plus partie de la communauté des vivants de la ville et elle était exécutée à l'extérieur de la ville. Ainsi, Jésus a été exécuté à l'extérieur de Jérusalem, sur le Golgotha. Si la personne jugée était acquittée, eh bien les portes étaient ouvertes pour signifier à cette personne qu'elle pouvait retourner dans le concert des vivants, dans la communauté. C'était signifier la grâce, ni plus ni moins. Lorsque dans l'Apocalypse, dans la lettre à Philadelphie, il est dit « Voici, je mets devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer », etc., eh bien c'est la grâce qui est annoncée à ce moment-là, à cette Église qui est dans les difficultés, dans les persécutions, qui a très peu de force. Comme le dit le texte lui-même, c'est la grâce véritablement qui est annoncée. Et pour entrer comme cela dans ces grandes visions de l'Apocalypse, dans cette espérance folle de l'Apocalypse, eh bien il faut savoir que la porte est ouverte précisément et qu'il faut sortir. Mais la porte c'est quoi? Cette porte ouverte que nul ne peut fermer, c'est la porte de la liberté évidemment, la liberté qui est si importante, la liberté qui est liée à la grâce. Il ne peut pas y avoir, on ne peut pas annoncer la grâce si on n'annonce pas d'une manière ou d'une autre la liberté. Lorsque nous confessons nos péchés, que nous mettons nos vies aux pieds de Dieu, qui lui fera véritablement le tri, mais quand on a des sentiments de culpabilité qui peuvent peser sur nos épaules, et ça arrive parfois d'avoir des problèmes très lourds à porter, lorsque la grâce est dite, qu'elle est entendue et vécue, il y a un soulagement qui se passe. Il y a une libération qui se passe. On ne peut pas dissocier la loi, la grâce de la liberté, évidemment. La porte est ouverte. On peut aller et venir, bien sûr. Nos lieux de vie ne sont pas des prisons, ça va de soi. Ne sont pas fermés, cadenassés ou imprenables, imperméables. Et pourtant, la vraie liberté, ce n'est pas seulement la porte ouverte au niveau physique ou biologique, je dirais. Mais c'est la porte de nos cœurs qu'il faut ouvrir. Parce que là, souvent, nos cœurs sont fermés, verrouillés, cadenassés, je veux dire. Et donc, ouvrir la porte de nos cœurs, c'est ouvrir la porte à l'écoute, à l'émerveillement aussi. Il y a tant et tant de raisons de pouvoir s'émerveiller dans nos vies. On passe souvent à côté de choses si simples, et pourtant si belle. La contemplation aussi permet véritablement de vivre pleinement, de vivre cette liberté. Ouvrir la porte de nos cœurs, c'est aller à la rencontre des autres, vivre cette liberté qui va nous arracher finalement à nous-mêmes, qui va nous arracher à nos présupposés, à nos opinions, mais aussi à notre confort. Le confort, c'est terrible. C'est terrible. Et on a beaucoup de mal à faire avancer les idées parce que les gens ont du mal à abandonner leur confort, leurs avantages, pour pouvoir vivre véritablement. La liberté, elle remet en cause, bien souvent, elle déstabilise même. Mais la liberté, c'est la base même de toute évolution, du progrès et de la vie, au final. Je mets devant toi une porte ouverte. Eh bien, c'est la liberté qui t'est offerte avec la grâce, bien sûr. Et c'est le signe de l'aventure. Quelle aventure ! Ah, la parabole du berger, elle est là. Les brebis sont enfermées dans le parc, dans la bergerie, elles sont encaquées là-dedans, véritablement. Et Jésus, le berger, les appelle par leur nom, les identifie, leur donne une identité, quelque chose, un être, finalement, leur fait prendre conscience. Et les amène dehors, précisément. Il les libère du parc, des barrières. Hein, et la porte est ouverte. Il est lui-même la porte, véritablement. Franchir le seuil, c'est aller vers l'inconnu, la surprise. Se laisser saisir, précisément, par tout ça. La rue, la route n'offre jamais le même spectacle. Je veux dire, il y a des passants, il y a des véhicules, il y a des animaux même qui passent. L'autre jour, je sors de chez moi dans ma rue que je connais par cœur. J'étais très surpris parce qu'il y a une souris qui est passée dans mes jambes. Je l'ai regardée. C'était un spectacle assez génial de voir qu'une toute petite bête comme ça était là et vivait et grignotait, je ne sais pas quelle saleté dans le caniveau, mais enfin bon. Mais il y a des choses qui valent le coup de s'arrêter pour voir. Parce que dans les toutes petites choses, il peut se passer quelque chose de grand, finalement. Quel temps fait-il ? Hein ? Qui allons-nous rencontrer ? Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Quelle personne il va falloir aider ? Quel projet réaliser ? La vie, c'est une aventure extraordinaire. Et on ne peut pas la vivre si on ne franchit pas la porte. Si on n'accepte pas de larguer les amarres, si on n'accepte pas le risque, ni la fragilité. Pauline Bèbe, la rabbin, qui était là il y a 15 jours à prêcher là-dessus, a développé cette idée de la fragilité. Oui, nous sommes fragiles. On peut faire des grandes choses, certes, mais nous sommes fragiles. Mais c'est la vie. Nous sommes fragiles, certes, mais Dieu est avec nous. Je pense à Abraham, par exemple. Abraham, qui part de Our, c'est-à-dire du sud de l'Irak actuel, et qui part à pied, jusqu'en Syrie, et qui redescend sur la Palestine, tout ça à pied, à travers des régions semi-désertiques. Ça représente quand même quelque chose d'extraordinaire. Il ne savait même pas où il allait, mais il y est allé. Avec l'aide de Dieu, il y est allé. Je pense au début de l'humanité aussi, Adam et Ève, qui sortent de l'Éden. C'est la grande aventure humaine. Il y a de la casse, on le sait. Il y a de la violence, on le sait. Mais quand même, Dieu est avec eux. Et les habits de peau de bête, il ne faut pas l'oublier, ce petit passage de la Genèse, véritablement. Et il va marquer du sceau, véritablement, pour qu'il soit protégé. Le signe est là. Le signe de la grâce, le signe de la présence de Dieu est là, véritablement, pour que nous puissions vivre la grande aventure, comme l'aventure du peuple, qui commence en Égypte par un signe marqué sur le linteau des portes, précisément, pour que l'ange exterminateur ne passe pas dans ses maisons. Et voilà que c'est la sortie de l'Égypte. Et ce n'est pas pour rien donc que lorsque la porte est fermée, Jésus frappe à la porte. Il frappe à la porte, montrant par là l'envie qu'il a de débloquer nos vies, de nous apporter une parole de grâce, une parole forte, une parole d'amour finalement. Il frappe à nos portes, ça implique aussi de notre côté qu'on vivre le silence comme étant une présence de Dieu et un moment au cours duquel on entend toquer à la porte. Oui, il frappe à la porte et il espère pouvoir prendre la scène avec nous et nous avec lui. Nous sommes toujours libres de laisser la porte fermée, de ne pas entendre, d'être sourd et de rester verrouillé dans nos vies, dans nos cœurs. Mais comment faire ? Comment faire lorsqu'on sait ce que c'est que la grâce et l'espérance, moteur même de la vie ? Et ça, c'est intéressant. Si Jésus frappe à la porte, même les portes qui sont fermées, c'est parce que chaque être humain a en lui quelque chose du feu divin. Même s'il n'y a pas de flamme sous les cendres, il y a peut-être une braise qui est là et ça peut repartir, précisément. Alors il frappe à la porte pour que le feu de la foi puisse se ranimer. Parole d'amour, effectivement. Comment être sourd à Dieu qui frappe, alors que le royaume est au cœur même de nos vies déjà. L'Apocalypse nous révèle à nous-mêmes, nous dit la dignité, le royaume, elle fait de nous des adultes, des gens autonomes et responsables, même si les choses ne sont pas si simples, même si l'aventure de la vie est souvent périlleuse. Alors, il y a cette porte ouverte, la dernière grande porte ouverte sur le ciel qui est là, je veux dire. Cette porte ouverte qui ouvre sur le grand temple de Jérusalem, le culte formidable qui est décrit dans les chapitres qui suivent. Il a fait penser immanquablement au rideau déchiré lors de la mort de Jésus, une ouverture à nouveau qui laisse voir le Saint des Saints, le lieu où Dieu se trouve quand il est parmi son peuple. Ouverture qui remet aussi en mémoire le partage de l'eau lors de la fuite en dehors de l'Égypte et qui donne naissance au peuple. Et c'est important parce que ce passage, précisément, de la mer fait du ramassis d'esclaves qu'étaient les Hébreux en Égypte un peuple à part entière avec la loi, avec une organisation, avec l'espérance d'un pays qui est là, à l'autre bout de l'autre côté du désert du Sinaï. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est toujours le même peuple, mais ce n'est pas tout à fait le même. De même qu'Adam et Ève, lorsqu'ils sont dans l'Éden, ils sont peut-être très gentils, ils sont un peu cucu la praline, moi je trouve. Ouais, ils ne sont pas très malins. On n'aurait peut-être pas été mieux, hein. Pas la question. Mais je trouve que c'est très bien qu'ils aient quitté la présence comme ça du Père tout le temps, omniprésent, pour pouvoir vivre leur expérience de vie. Même si, comme je disais tout à l'heure, il y a de la casse, même si c'est pas possible, même si c'est pas facile, même s'il y a des échecs, on le sait. Mais peu importe, je crois que c'est important. C'est important aussi de savoir que Jésus qui traverse la mort, qui franchit le seuil, précisément, la porte de la mort, c'est le même après, mais c'est pas tout à fait le même. Les disciples le reconnaissent, on ne le connaisse pas. Il apparaît dans la chambre haute, là, comme ça, on ne sait pas très bien comment et pourquoi, mais pourtant, il y a toutes ces plaies qui sont là, dans ses mains et sur le côté. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans le passage de la porte et dans toutes ces symboliques qui signifient le passage, c'est-à-dire Pâques, Pécha, ni plus ni moins en hébreu. Eh bien, c'est que nous sommes toujours nous-mêmes, tout en étant autres, finalement, en ayant une autre dimension, une autre envergure, un autre horizon, finalement. C'est ça la porte de l'ouverture, l'ouverture de la porte, pardon. C'est ça cette vision qui inaugure finalement les grandes aventures de l'Apocalypse, de l'histoire. L'Apocalypse est un livre de combat. L'apocalyptique, ce style, a été inauguré par un grand prophète, Ézéchiel, qui écrivait pour les Hébreux qui étaient en exil à Babylone, qui étaient malheureux, ils avaient été écrasés, massacrés, déportés. Il leur écrit comme cela tout un livre plein de visions apocalyptiques et plein d'espérance avec là aussi une Jérusalem. Car l'espérance, elle est là, elle est essentielle. L'espérance, elle est liée à la liberté, elle est liée à la grâce. Ils forment un tout, la foi, l'espérance et l'amour. Là aussi, on trouve ces trois données qui sont là, qui marchent ensemble dans un équilibre parfait aussi. Mais la grâce, la liberté, finalement, et l'espérance. Jérusalem. Jérusalem qui est là en vision à la fin des temps, à la fin de l'histoire. Elle est là avec 12 portes, qui signifient les 12 tribus d'Israël, passons là-dessus. Mais ces 12 portes sont comme des perles, dit l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'elles sont belles, elles sont pures, elles sont fines. Et elles sont ouvertes, précisément. C'est-à-dire qu'elles sont accueillantes. Un psychologue vous dirait, ben voilà, une porte ouverte qui est belle, bien dessinée, etc. Il y a de l'accueil, c'est une sorte de sérénité, ainsi de suite. Je ne sais pas très bien ce qu'on pourrait dire là-dessus, mais des tas de choses. Mais effectivement, c'est la grâce qui est annoncée, une grâce qui vous dit, mais allez, franchissez le seuil, là, entrez, là, dans cette Jérusalem, où il y a l'arbre de vie, les fleuves, etc., où il y a la lumière, où il y a l'agneau immolé mais debout, où il y a un nouvel Éden, qui l'a décrit de manière urbaine. On est passé d'une civilisation à une autre, tout simplement, qui explique qu'on est passé d'une civilisation très agricole à une civilisation urbaine à l'époque, ni plus ni moins. Alors cette espérance de l'Apocalypse, elle est extraordinaire. Elle nous invite à sortir de nous-mêmes, à franchir les portes. Pour ceux d'hier, comme Ézéchiel, Daniel, Zacharie, les fondateurs du style apocalyptique, il y a cette espérance qui est là. Cette espérance, elle est là pour ces premiers chrétiens des sept églises qui sont victimes de la violence du deuxième siècle. Et cette espérance, cette grâce, cette liberté annoncée, elles sont là pour nous aujourd'hui, malgré les guerres, les injustices, les épidémies, les pollutions, la bêtise, la méchanceté, les mensonges aussi, les fausses promesses en tout genre. Tous, toutes celles et tous ceux d'hier à aujourd'hui, chacune, chacun d'entre nous, nous savons qu'il y a une porte ouverte pour la vie, pour la dignité. Nous avons conscience que le chemin de l'actualité et de l'histoire peut être difficile et qu'il y aura des échecs, mais il y aura aussi des joies, bien sûr, des réussites. Il peut être difficile, la porte peut sembler étroite, mais la grâce, elle est là, avec la résurrection, la liberté, l'espérance. Franchir la porte, s'arracher à soi-même, témoigner de la présence du royaume, c'est engager un combat pour la vie. C'est entrer dans la joie du ressuscité, c'est élargir nos horizons. Il y a quelque chose de l'enthousiasme là-dedans, c'est-à-dire de la présence de Dieu, comme son nom l'indique. Nous avons du Dieu en nous, nous avons de l'enthousiasme en nous. Il y a cette possibilité, il ne faut pas la gâcher. Ne perdons pas de vue qu'il se tient à nos portes et qu'il frappe, qu'il nous appelle par nos noms et que d'un troupeau, il fait véritablement un peuple avec des individus, des êtres à part entière. Alors, chers amis, chers auditeurs, avec la force de l'Esprit Saint, l'Esprit de Pentecôte, déverrouillons les portes de nos cœurs. Franchissons les portes de l'éternité et du royaume. Allons dans la vie. Allons en paix dans la lumière. Amen.